Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Théorie de la destruction créatrice rassemble les idées les plus influentes de Joseph Schumpeter sur la dynamique du capitalisme. Cet essai d'économie politique présente une conception du développement qui rompt avec l'image d'une économie tendant spontanément vers un équilibre stable. Pour Schumpeter, le changement vient principalement de l'innovation, laquelle transforme les produits, les procédés, les marchés et les formes d'organisation. Cette transformation n'est jamais indolore, les activités nouvelles gagnent du terrain en rendant certaines entreprises, compétences et techniques plus anciennes moins viables. Le titre désigne donc un mécanisme simultanément producteur de croissance et destructeur de positions établies. L'ouvrage éclaire aussi la fonction particulière de l'entrepreneur, les liens entre crédit, investissement et profit, ainsi que le caractère cyclique des mutations économiques. Il ne propose pas une célébration simple du progrès technique. Il offre plutôt une grille d'analyse pour comprendre pourquoi le capitalisme se renouvelle par rupture. Pourquoi les monopoles temporaires peuvent accompagner l'innovation et pourquoi les gains collectifs s'accompagnent de coûts de transition réels. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la destruction créatrice décrit le renouvellement interne du capitalisme. L'idée centrale est que le capitalisme ne se transforme pas seulement sous l'effet d'événements extérieurs, comme une guerre ou une pénurie. Il se modifie continuellement de l'intérieur lorsque des innovations déplacent les conditions de la concurrence. Une nouveauté utile ne s'ajoute pas simplement à l'économie existante, elle peut réduire la valeur d'un équipement, d'un savoir-faire ou d'un modèle d'affaires antérieur. Des producteurs perdent alors leurs débouchés, tandis que de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois apparaissent autour des usages émergents. La destruction et la création sont ainsi deux faces d'un seul processus. Cette perspective permet de dépasser une vision statique dans laquelle la concurrence consisterait uniquement à ajuster les prix entre acteurs déjà en place. Chez Schumpeter, la concurrence décisive porte aussi sur la capacité à introduire ce qui modifie les règles du jeu. Le mécanisme explique comment des économies peuvent croître sur longue période tout en connaissant faillite, reconversion et disparition sectorielle. Il invite donc à distinguer le résultat global de croissance et sa répartition concrète entre groupes, entreprises et territoires. L'expression reste particulièrement utile pour analyser les changements techniques. À condition de ne pas la réduire à un slogan, une innovation ne devient économiquement transformatrice que lorsqu'elle est effectivement introduite, diffusée et capable de déplacer les solutions antérieures. Deuxièmement, l'entrepreneur innovateur déclenche la rupture plutôt que le simple gestionnaire. Schumpeter donne à l'entrepreneur une fonction analytique précise. Il ne le définit pas d'abord comme le propriétaire du capital, le dirigeant administratif ou la personne qui supporte seule les pertes financières. Sa fonction est de réaliser de nouvelles combinaisons économiques. L'entrepreneur introduit une possibilité qui n'était pas encore intégrée à la production ou aux échanges et cherche, par cette initiative, un profit. Cette distinction sépare l'invention de l'innovation. Une découverte technique peut rester sans effet économique si elle n'est ni financée, ni organisée, ni adoptée sur un marché. L'innovation suppose donc une mise en œuvre effective. Elle repose souvent sur la coordination de connaissances, de travail, de financement et de débouchés, et non sur la seule originalité d'une idée. En insistant sur ce rôle, l'ouvrage conteste l'image d'une économie animée uniquement par des agents qui répètent des calculs connus. L'entrepreneur introduit de l'incertitude et rompt le fonctionnement routinier. Son gain éventuel correspond à l'avantage provisoire obtenu par une combinaison nouvelle. Mais cet avantage est menacé dès que des imitateurs ou des innovations concurrentes apparaissent. La figure schumpeterienne ne doit donc pas être confondue avec une glorification de tout chef d'entreprise. Elle désigne avant tout l'agent du changement économique, quelle que soit sa position institutionnelle ou l'ampleur de l'organisation qui porte l'innovation. Troisièmement, les cinq formes d'innovation élargissent l'analyse au-delà des seules technologies. L'apport de Schumpeter consiste notamment à ne pas limiter l'innovation à l'apparition d'un objet technique. Il distingue l'introduction d'un bien nouveau, l'adoption d'une nouvelle méthode de production, l'ouverture d'un nouveau marché, l'accès à une nouvelle source de matières premières et une nouvelle organisation de l'activité. Cette typologie montre que les grandes transformations économiques peuvent venir de la fabrication, de la distribution, de l'approvisionnement ou de l'organisation, autant que du produit lui-même. Elle évite ainsi une lecture réductrice qui attribuerait tout changement au progrès scientifique. Une entreprise peut bouleverser un secteur en restructurant sa chaîne de production ou en atteignant une clientèle jusque-là inaccessible, même sans invention spectaculaire. Inversement, une technique prometteuse ne produit pas automatiquement une rupture si les conditions de production, de financement et de diffusion ne sont pas réunies. Ces catégories aident à examiner concrètement le mécanisme de destruction créatrice, quelle activité nouvelle est introduite, quel avantage elle crée, quelle pratique antérieure elle rend moins compétitive et quels ajustements elle exige. Elle souligne aussi que les innovations peuvent se renforcer mutuellement. Une nouveauté dans les transports ou l'énergie, par exemple, peut faciliter d'autres changements dans la production et les marchés. L'analyse porte alors sur des ensembles de transformations interdépendantes plutôt que sur une succession isolée de produits nouveaux. Quatrièmement, crédit. Profit et monopole temporaire rendent possible l'investissement innovant. La théorie schumpeterienne relie l'innovation aux institutions qui permettent de mobiliser des ressources avant que les résultats soient connus. L'entrepreneur doit détourner travail, équipement et matières premières vers une combinaison nouvelle alors même que les recettes futures demeurent incertaines. Le crédit joue ici un rôle central. Il permet de financer l'initiative et d'engager l'investissement avant que l'innovation ait produit ses effets sur le marché. Cette analyse donne à la monnaie et aux banques une place active dans le développement, plutôt qu'un rôle purement passif d'accompagnement des échanges existants. Le profit innovateur est également conçu comme temporaire. Il provient de l'avance procurée par une combinaison plus efficace ou par l'ouverture d'une possibilité nouvelle. À mesure que l'innovation se diffuse, que les concurrents imitent et que les prix ou les méthodes s'ajustent, cet avantage tend à s'éroder. C'est pourquoi Schumpeter ne traite pas nécessairement tout monopole comme la preuve d'une inefficacité durable. Une position dominante provisoire peut constituer la récompense et l'incitation d'une innovation, sous réserve que le marché reste exposé à la menace de nouvelles entrées et de nouvelles ruptures. Cette nuance ne justifie pas automatiquement toute concentration. Elle conduit plutôt à évaluer si une organisation finance et produit réellement du changement, ou si elle protège durablement des positions acquises contre la concurrence innovatrice. En dernier lieu, les cycles économiques expriment des vagues d'innovation et leurs ajustements, dans cette perspective. Les fluctuations économiques ne sont pas de simples accidents autour d'une trajectoire régulière. Les innovations tendent à apparaître par vagues ou grappes, car une percée peut susciter des investissements complémentaires, de nouvelles entreprises et des adaptations dans plusieurs secteurs. Une phase d'expansion peut alors se développer lorsque ces initiatives se diffusent et génèrent une demande d'équipement, de crédit et de main-d'œuvre. Mais cette impulsion ne dure pas indéfiniment. L'imitation réduit les profits exceptionnels, certains investissements se révèlent mal orientés et les activités remplacées subissent les effets de la nouvelle concurrence. Les phases de ralentissement et de réorganisation font donc partie du processus par lequel l'économie absorbe les changements. Schumpeter distingue classiquement prospérité, récession, dépression et reprise, tout en cherchant dans l'innovation une cause interne majeure des cycles. Cette lecture est utile parce qu'elle relie les mouvements conjoncturels à la structure productive. Elle rappelle qu'une reprise solide ne se limite pas à une hausse temporaire de la dépense, elle peut dépendre de nouvelles capacités, de nouveaux marchés et de formes de production renouvelées. Toutefois, l'analyse n'efface pas les coûts sociaux des transitions. Chômage, déclassement de compétences et fragilisation de territoires peuvent accompagner la disparition des activités anciennes. Comprendre le cycle schumpeterien implique donc de penser conjointement dynamisme économique, accompagnement des reconversions et conditions de diffusion des gains de productivité. En conclusion, théorie de la destruction créatrice s'adresse en priorité aux étudiants en économie, en sciences sociales et en gestion, mais aussi aux lecteurs qui veulent interpréter les mutations industrielles sans se contenter d'opposer progrès et déclin. Sa principale utilité intellectuelle est de fournir un cadre précis pour relier innovation, concurrence, investissement, profit et cycle économique. Le lecteur y gagne une manière plus rigoureuse de poser les débats contemporains sur la numérisation, les transformations du travail, l'obsolescence des produits ou la concentration des entreprises. Il apprend notamment à examiner non seulement ce qui est créé par une innovation, mais aussi ce qu'elle remplace, qui supporte les coûts de l'ajustement et quelles institutions rendent sa diffusion possible. L'ouvrage se distingue des introductions générales à l'innovation par sa portée théorique. Il ne décrit pas seulement les méthodes de l'entrepreneur ou les effets pratiques d'une technologie, il inscrit les innovations dans une théorie globale de la dynamique capitaliste. Sa force tient également à son refus des oppositions simplistes. La concurrence peut passer par des ruptures davantage que par les seuls prix. Le monopole peut être provisoirement lié à l'innovation, et la croissance peut coexister avec des pertes localisées. Cette densité conceptuelle demande une lecture attentive, mais elle rend le texte durablement fécond. Il constitue ainsi une référence pour analyser les transformations économiques comme des processus historiques, conflictuels et structurels, plutôt que comme une suite de nouveautés isolées. Si vous souhaitez soutenir Joseph Schumpeter, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.